en même temps que je m'occupe de l'enfant, je peux m'occuper d'autres enfants qui ne sont pas notifiés, parce qu'il y a énormément d'enfants qui ont des lacunes scolaires ou autres. Tu pilotes le petit gamin dont tu t'occupes, bien sûr, hein, on est là pour ça, bien sûr, ça je l'entends fortement, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ça l'ouverture, c'est faire partie intégrante de, avec l'instit de la vie de la classe. Moi, ça, c'est le vrai job de l'AESH.
Vous écoutez le 71e épisode de PLAF. PLAF est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. Le sujet de PLAF, c'est la double peine du sexisme et de l'âgisme qui s'exerce dans le monde du travail. Oh ben vous connaissez, c'est le duo infernal qui frappe les femmes dès l'approche de la cinquantaine. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée et je donne la parole aux femmes de plus de 50 ans, à celles qui galèrent tout autant qu'à celles qui s'en sortent et parfois très brillamment. Et puis aussi à celles qui les accompagnent et les défendent. Si vous voulez rejoindre ce combat, vous pouvez vous inscrire sur le site plafpodcast.fr. Vous serez ainsi informé de la publication de chaque nouvel épisode. Plus j'avance dans ce podcast, plus je vieillis, plus je ressens une gratitude, mais alors sans limite, à l'égard des rôles qui sont dévolus majoritairement aux femmes, sans lesquels, comme le précisait Bruno Palier dans l'épisode 66, notre société ne pourrait survivre. À ces femmes, malheureusement, cette même société ne témoigne pas la reconnaissance qu'elle leur devrait. Je pense ici, bien sûr, tout autant aux tâches effectuées gratuitement dans la sphère domestique qu'aux métiers si mal valorisés qu'elles exercent bien souvent. Toutes ces femmes font leur travail avec cœur et en paient le prix cher en termes de rémunération, fatigue, stress et pour finir, retraite. Alors, je suis pas du tout capable de changer cet ordre bien établi, fait de patriarcat et de capitalisme. Mais par contre, comme j'ai le choix des personnes que j'invite sur mon podcast, je peux donner la parole à l'une d'entre elles. Alors, pour cet épisode, j'ai choisi Odile, qui a 62 ans. Elle habite à Saint-Étienne et elle exerce depuis 7 ans le métier d'accompagnante d'enfants en situation de handicap, en abrégé AESH. Alors pourquoi j'ai choisi ce métier-là ? Mais d'abord parce qu'il aurait été difficile de trouver un métier plus essentiel et plus invisible. Alors depuis que l'État a décidé de garantir l'accès à une scolarité à tous les élèves, y compris ceux en situation de handicap, les chiffres ont explosé et tout le système de l'école maintenant qu'on appelle inclusive implose. Il a fallu embaucher en grand nombre des AESH. Elles sont aujourd'hui 132 000, 92,6% de femmes. Bon, ça c'est la première raison. Et puis la seconde, c'est que AESH, c'est un métier qui est accessible à de nombreuses femmes qui avaient longtemps arrêté de travailler. Donc AESH est une voie de reconversion possible en seconde partie de carrière. Merci infiniment Odile pour avoir accepté de nous raconter une partie de ta vie. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire ce qui t'a conduit à ce métier ?
Donc, j'ai choisi ce métier parce que je m'occupe d'enfants depuis très, très longtemps. Donc, j'ai fait 40 ans de bénévolat au sein de maisons des jeunes, d'associations. Donc. Et puis, il y a 7 ans et demi, j'ai divorcé. Donc, à l'époque, je ne travaillais pas. Donc, j'ai voulu retrouver un travail tout de suite, bien sûr, pour permettre de vivre indépendamment. Donc, je me suis inscrite à Pôle emploi. Donc, je connaissais ce métier, j'en avais entendu parler par l'école de mes petits-enfants et tout. Donc, j'ai su que dans la commune où je résidais, un poste était à pourvoir d'AVS à l'époque, ça s'appelait AVS. Et donc, j'ai postulé en accord avec Pôle emploi. Et du coup, j'étais acceptée. Bon, donc voilà, il y a 7 ans, j'ai commencé en tant qu'AVS sur une petite commune, sur une seule école et sur un seul enfant à l'époque. C'était pas une école publique, c'était une école privée. Donc, j'ai commencé là, avec une petite fille, sur un cas très intéressant, aussi de pathologie. C'était très bien, une super équipe pédagogique et tout. Pour ma première année, ça a été parfait. J'avais une notification à temps plein pour un seul enfant.
La notification dont tu parles, c'est celle de la Maison départementale des personnes handicapées, ou la MDPH. Aujourd'hui, c'est la MDPH qui décide, en fonction de l'importance du handicap de l'enfant, où il sera orienté, soit dans un établissement spécialisé du secteur médico-social, soit en classe ordinaire. Quand la MDPH décide que l'enfant devrait être admis en classe ordinaire, elle en précise les conditions, s'il sera accompagné ou pas par une AESH, par une AESH qui lui sera entièrement dédiée ou partagée avec d'autres enfants. Elle précise aussi le nombre d'heures hebdomadaires pendant lesquelles l'enfant sera scolarisé. Alors ça, c'est la théorie, parce que dans la pratique, comme il n'y a pas assez d'AESH, les décisions de la MDPH ne sont pas respectées, ce qui occasionne, on l'imagine, beaucoup de déceptions chez les parents. Alors, dans ton cas, Othilde, la petite fille a eu de la chance et tu as commencé dans cette première école. Qu'est-ce que tu as eu comme formation pour démarrer ?
Par le biais de l'Académie donc, de la Loire, on nous propose une formation, enfin, on ne nous propose pas une formation qui est obligatoire de 60 heures. Donc, qui se déroulait à l'IUFM, dans les locaux de l'IUFM à Saint-Étienne, avec des formateurs de l'Académie et tout. Donc, j'allais faire mes heures de formation sur mon temps de travail, ces 60 heures qui étaient échelonnées sur plusieurs mois. Donc, très intéressant, j'ai eu des très bons contacts avec les formateurs. Mais bon, c'est une formation qui, à l'époque, il y a 7 ans, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, qui était très succincte. On aborde très peu les pathologies, on aborde surtout le savoir-être, un peu le savoir-faire des AESH. C'est vraiment, on survole vraiment.
Et tu avais été embauchée avec quel type de contrat ?
Et donc, j'ai travaillé 2 ans en tant que contrat aidé avec le Pôle emploi. Et comme cela s'était très bien passé avec les formateurs de l'Académie, donc ils m'ont dit, dès que vous terminez votre contrat avec le Pôle emploi, téléphonez-nous et on vous prend en tant que vacataire à l'Éducation nationale. Donc, j'ai été embauchée par l'Éducation nationale. Enfin, en CDD. Hein. Au départ, c'est en CDD. Donc, j'ai continué en CDD, toujours dans la même école. Après, j'ai été basée sur 2 écoles, mais sur la même commune, parce que je leur avais dit, moi, si vous m'envoyez une école qui est à 15 kilomètres, j'arrête. J'y vais parce que je veux pas passer mon temps entre 50 enfants. Je trouve pas qu'on avance dans le travail qu'on peut faire ensemble.
On aura compris qu'aujourd'hui, ce n'est plus Pôle emploi, mais c'est l'Académie. Donc, l'Éducation nationale qui s'occupe du recrutement des AESH. Elles sont embauchées, si elles ont le baccalauréat, avec un CDD de 3 ans, renouvelable une fois. Donc, il n'y a pas d'espoir d'être en CDI avant 6 ans. Je précise, s'il en était besoin, qu'elles n'ont pas le statut de fonctionnaire. Alors, Odile, toi, tu en es où aujourd'hui ?
Sur ces entrefaits, bien sûr, j'ai fait une rencontre amoureuse qui m'a décidé à déménager. Je suis partie de la campagne pour aller en ville. Et j'ai dit, pour moi, ça sera un challenge parce que je connais pas. J'étais quand même très préservée dans les petites écoles où j'étais, plus à la campagne. Donc, j'ai commencé à Saint-Étienne, basée sur 2 écoles. Donc, une école très, très difficile avec beaucoup de cas sociaux, un enfant qui parlait qu'anglais, la maman qui était très assistée par les systèmes sociaux. La 2e école, non, ça allait mieux. Donc, j'ai dit, oula, ça commence bien. Je dis, je vais faire pour le mieux. Puis, les directeurs et directrices, très, très, très bien à me soutenir. Il n'y avait pas de problème. Et quand je suis arrivée, c'était un autre monde. Quand j'ai su qu'on était 17 AESH pour une seule et même école primaire, c'est une école très, très importante. Mais je me dis, c'est énorme le nombre de cas d'enfants qui ont besoin de soutien à AESH, c'est incroyable. Moi, je ne m'attendais pas à une quantité astronomique comme celle-ci.
Ben oui, c'est incroyable. Avant 2005, c'est-à-dire quand il y a eu la loi sur l'inclusion, il y avait un peu moins de 134 000 enfants qui étaient accueillis en milieu dit ordinaire. Et ils sont aujourd'hui, et forcément c'est mon chiffre plaf de l'épisode, ils sont 436 000 enfants en 2022, répartis à peu près également dans les classes des écoles maternelles primaires et dans les collèges. 436 000. Encore un chiffre, sur ces 436 000, plus de 10%, soit 45 000, étaient diagnostiqués comme souffrant de troubles du spectre de l'autisme. Ces troubles sont détectés plus précocement, ce qui chamboule forcément les écoles maternelles. Bon, excuse-moi pour ce petit aparté, tu étais en train de nous raconter ton année scolaire 23-24 au centre-ville de Saint-Étienne.
Et puis j'ai su que sur la plus petite école où j'étais, qui était à 2 minutes de chez moi, un poste, une notification donc pour un enfant se libérait à temps plein, parce qu'on attendait les décisions de la MDPH pour qu'il y ait un temps plein pour l'enfant. Donc ça a été accordé, donc j'ai fait ma demande pour rester sur une seule et même école et m'occuper de l'enfant à temps plein, chose qui a été accordée. Alors maintenant, je suis sur une seule école. Donc moi, j'ai un contrat de 26 heures. Donc, ce qui me permet de toucher 1 000, là, j'ai été augmentée parce que ça y est, je suis en CDI depuis un an et demi, au bout de 3 ans de CDD. Donc là, je peux prétendre à toucher 1 040 euros et quelques, enfin, les poussières, bien sûr, par mois pour 26 heures.
Alors, 1 040 euros par mois pour 26 heures, c'est un peu plus que ce que touche les AESH, dont la rémunération moyenne est plutôt de 850 euros. Difficile de faire des comparaisons car leur salaire dépend du nombre d'heures travaillées et ce nombre d'heures est décidé depuis 2019 par ce qu'on appelle les PIAL, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, dont le but est de mutualiser au mieux les besoins et les ressources disponibles. Enfin, c'est une autre manière de dire qu'ils gèrent la pénurie, sachant que les AESH ne sont pas remplacés en cas de départ en retraite, maternité ou maladie. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est comment se passent les relations avec l'enseignant et puis apparemment plutôt les enseignantes avec lesquelles tu as travaillé.
Alors, heureusement que je suis toujours tombée sur des collègues professeurs des écoles sensationnels. Hein. Et même à l'heure actuelle, vraiment, on forme des binômes. Et c'est ce qui porte l'enfant et c'est ce qui nous valorise dans le métier. Quoi. Là, je suis tombée sur des écoles où je fais partie intégrante de l'équipe éducative. Alors que je sais qu'il y a des écoles où c'est pas du tout le cas. Moi, je sais que je participe. Quand en même temps que je m'occupe de l'enfant, je peux m'occuper d'autres enfants qui ne sont pas notifiés, parce qu'il y a énormément d'enfants qui ont des lacunes scolaires ou autres. C'est pas juste être hop, tu pilotes le petit gamin dont tu t'occupes, bien sûr, hein, on est là pour ça, bien sûr, ça je l'entends fortement, il n'y a pas de souci. Mais on peut dériver sur plein de choses, quoi. Pour moi, ça, c'est le vrai job de l'AESH.
Et comment ça se passe avec les parents? Est-ce que tu peux communiquer avec eux?
Alors, les parents, normalement, on n'est pas tenu forcément de trop les côtoyer. C'est l'institutrice qui est en priorité. C'est elle qui doit dialoguer avec les parents. Moi, je suis toujours avec l'institutrice. Hein, parce que là, comme je suis en maternelle, cette année, les parents amènent les enfants jusque dans la classe. Mais c'est tout, ça reste juste dans ce cadre-là. Les parents, on les rencontre vraiment dans ce qu'on appelle les ESS. C'est une réunion où on fait finalement un bilan du temps écoulé, de ce qui se passe à l'école, ce qui peut être amélioré. Donc là, il y a la maman, des fois, il y a les psychologues, il y a une institutrice référente du secteur, l'institutrice et moi-même. Ben, les parents, c'est un parcours du combattant, je vais dire, pour eux. Hein. Mais bon, il y a déjà le parcours de l'acceptation par les parents. Et après, il y a le long parcours du combattant pour faire avec la MDPH une demande d'assistant, enfin, d'AESH, quoi. Ça, c'est, je les plains parce que c'est périlleux. Hein. Et justement, du manque de moyens financiers, il y a ça aussi où le bas blesse hein, dans l'éducation nationale. Et il n'y a pas de moyens financiers. Donc, les postes aussi, pour ça qu'ils sont un peu ric-rac, hein, ils sont pas, il n'y en a pas énormément. Hein.
Alors, ce que tu pointes là, c'est les attributions d'AESH recommandées par la MDPH qui ne seront pas appliquées faute de moyens financiers et surtout humains. Claire Hédot, qui est notre défenseur des droits, signale que 20% des saisines qui lui sont adressées le sont par des parents excédés de ne pas pouvoir réussir à scolariser leur enfant. Et parmi elles, de nombreuses femmes qui espéraient pouvoir travailler pendant que leur enfant en situation de handicap sera à l'école. Un autre dysfonctionnement est porté cette fois par les syndicats d'enseignants. Il s'agit de l'accueil d'enfants dont les pathologies sont très graves. Ils devraient être accueillis en milieu spécialisé, mais comme les places n'ont pas suffisamment évolué depuis 2005, les listes d'attente s'allongent et l'engorgement se répercute en cascade. Le syndicat majoritaire enseignant, sans remettre en cause le principe de l'école inclusive, alerte. Les enseignants sont démunis face à certains troubles, notamment du neurodéveloppement, qui ne relèvent pas de leurs compétences pédagogiques. Et c'est devenu l'une des principales causes de la souffrance au travail des enseignants.
Parce que c'est facile depuis 2005 de dire l'inclusion automatique d'enfants porteurs de handicap. Il y a handicap et handicap. Il y a des handicaps. Vu qu'il n'y a pas de structure extérieure pour accueillir ces enfants, la seule solution, et je comprends les parents, c'est l'école. Quand il y a des cas d'autisme, et j'en suis témoin, j'en vois, hein, des cas d'autisme sévère où les enfants n'ont rien à faire à l'école. Moi, j'ai des collègues chapeau bas, hein, vraiment, le boulot qu'elles font, c'est hyper dur. Et puis, on n'encadre pas un enfant avec des pathologies comme ça dans le cadre scolaire comme on peut l'encadrer dans un institut spécialisé. C'est complètement différent. Et c'est un calvaire. Enfin, moi, je plains mes collègues. Je leur ai dit, moi, je pourrais pas faire ce que vous faites. Hein. Mais là, il y en a qui sont à bout. Hein. Heureusement, elles se relaient à deux. Et il y a quand même une éducatrice qui vient de l'extérieur. Et heureusement que ça a été mis en place pour donner un coup de main de temps en temps.
Est-ce que depuis 7 ans que tu exerces ce métier-là, tu as pu bénéficier de formations complémentaires?
Donc, on a un site internet académique avec notre adresse mail où on reçoit des propositions de formation. Donc, moi, les 3 premières années, je me suis inscrite. J'ai dit, tiens, il y avait une formation sur l'autisme. J'ai dit, ça m'intéresse, je vais y aller. Je me suis inscrite complet. La deuxième année, ou dans le courant de l'année, je me réinscris à notre formation pour la gestion du comportement. Pas complet. J'ai dit, j'abandonne, je vais me former toute seule. Merci internet. Merci les bouquins. Et donc, c'est là où c'est la grosse, grosse lacune. On n'est pas vraiment des professionnels si on n'a pas de formation. Il y a beaucoup d'enfants autistes, il y a beaucoup de dyslexie, dysphasie. Ça, on n'est pas formé. Si on ne s'intéresse pas nous-mêmes à ces choses-là, on fait comme on peut, avec les moyens du bord.
Donc, l'insuffisance de formation, c'est ce qui te semble te pénaliser le plus. Et puis, en plus, ça pénalise aussi les enfants concernés. Est-ce qu'il y a autre chose qui te choque?
Il y a aussi, ce que je trouve aberrant, c'est que du fait qu'il y ait l'inclusion de ces enfants en milieu scolaire, que dans les écoles, il n'y ait pas de budget propre attribué pour ces enfants-là. Parce que si moi, je veux du matériel, je me débrouille avec l'institutrice qui le prend sur son budget de classe ou autre. Même là, pour un enfant autiste, des moments, il a besoin de s'isoler. J'ai récupéré dans une famille qui allait la donner une petite tente en tissu pour qu'il puisse s'isoler et se trouver bien pendant un moment. Mais ça, tu vois, on n'a pas. Donc, on s'adapte avec ce qu'on a. On y arrive, des fois. On bricole avec les moyens du bord.
Ça, je crois qu'on a bien compris. Alors, on arrive à la conclusion. Est-ce que tu aurais envie de partager avec nous les joies et les difficultés de ce métier?
Moi, j'en ai beaucoup de bons souvenirs parce que on devrait pas, mais ça fait rien. Moi, je le dis et je l'assume. On s'attache énormément à ces enfants. On est quand même une année scolaire avec eux. On n'est pas insensible, hein. Donc, j'ai eu plein de merveilleux moments. Quand un enfant, même le petit dont je m'occupe, quand il arrive à faire un petit travail, il est en TSA, c'est le syndrome autistique. Donc, il est en cours d'évaluation encore et tout. Il est tout petit. Hein. Il a 4 ans. Oui, il est en moyenne section de maternelle. Donc, quand il arrive à faire un travail, qu'on arrive à mettre des choses en place, c'est que du bonheur. Mais bon, même dans l'échec, hein, des fois, quand bon, ils sont pas aptes, hein, ça fluctue tous les jours. Hein. Donc, il y a des jours, c'est très dur. Hein. Il y a eu des moments, des pathologies, c'est fatigant. Hein, quand il faut gérer tout ça au milieu des autres enfants, qu'il faut, c'est pas forcément évident. Hein, c'est lourd quand même à gérer. Hein. Mais je sais pour des collègues où vraiment c'est très difficile, hein, qui sont ballottés entre 3, 4, 5 enfants, qui n'ont pas forcément dans l'école où elles sont, c'est pas forcément le top. C'est qu'ils sont obligés de faire des trajets. Moi, je peux dire que je suis bien lotie. J'ai pas envie de prendre ma retraite, que j'adore ce métier.
La journaliste du journal Le Monde, Eléa Paumier, avait intitulé son article de février 2024, dont je me suis inspirée. L'école inclusive, un système qui craque. Bah oui, tous les chiffres en témoignent, le dispositif croule sous le nombre exponentiel d'enfants en situation de handicap à prendre en charge et les difficultés à recruter de nouvelles AESH dans les conditions qui leur sont proposées aujourd'hui. Alors les rapports, les manifestations de parents, les alertes s'accumulent, signalant la grande souffrance de tous les acteurs du dispositif. Les enfants, bien sûr, d'abord les enfants, les parents, en particulier les mères qui interrompent ou réduisent leur activité pour accompagner leur enfant handicapé. Tous les personnels de l'éducation nationale, équipes pédagogiques, enseignants et AESH. Il y a tout à fait urgence à repenser la politique d'inclusion et les moyens qui lui sont alloués. Mais malgré tout, ce système qui devrait craquer résiste grâce à des milliers d'Odile et de professeurs de écoles qui aiment leur métier et le font du mieux qu'elles peuvent. Il n'y a pas de mots suffisants pour les en remercier. J'espère que vous êtes devenus incollables sur l'école inclusive et que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches. Ils seront sûrement contents d'écouter le quotidien d'une de ces femmes de l'ombre, tellement essentielle et qu'on entend si rarement. Si vous souhaitez me faire part d'un commentaire, je suis à votre disposition sur LinkedIn, Claire Fleury, FLURY. Prochain rendez-vous le 8 avril.